À voix nue. Cette semaine, nous réécoutons la rencontre en 2006 entre Caroline Brouet et Françoise Héritier, qui vient de nous quitter. Ce soir, masculin, féminin.
Françoise Héritier, après les structures de parenté et d'alliance, nous abordons aujourd'hui l'autre question centrale de votre travail d'anthropologue, à savoir la question de la différence des sexes. Avec la prohibition de l'inceste révélée par Claude Lévi-Strauss, vous faites de la valence différentielle des sexes, et on va revenir sur cette formule, un second universel culturel. Vous avez consacré 2 livres à ce sujet et des dizaines d'articles et d'interviews dans la presse. Alors pourquoi vous êtes intéressée à cette question de la différence des sexes ? Françoise Héritier.
Merci. Parce que je me suis, dans les travaux précédents que vous avez cités sur la parenté et sur cet inceste du deuxième type dont nous avons parlé hier, je crois, je me suis aperçue assez vite que dans le langage même des terminologies de parenté, dans certains types structuraux de ces systèmes de parenté, j'ai cité quelques-uns, Omaha, Iroquois, Crow, etc., Esquimaux, il y avait quelque chose passait qui disait l'inégalité entre les sexes. Alors, je prends un exemple particulier d'une société du Nord Ghana qui possède un système de parenté qui est fondé là aussi sur l'équivalence des germains de même sexe et la différence absolue des germains de sexe opposé, et où il existe pour les pères de germains de même sexe, que ce soit 2 garçons ou 2 filles, des termes qui permettent de s'appeler réciproquement frère aîné, frère cadet, sœur aînée, sœur cadette. Et alors qu'en fait, la paire du frère et de la sœur ne dispose que d'un terme qui, dans sa, si on l'analyse linguistiquement, veut dire, s'adressant d'un garçon à sa sœur, ma sœur cadette, alors même qu'elle peut être aînée, et d'une sœur à son frère, dit mon frère aîné, alors même qu'il peut être son frère cadet. Donc ça veut dire que déjà dans le langage, c'est-à-dire une inscription extrêmement forte, puisque vous l'apprenez en même temps que vous grandissez, il y a inscrit cette idée d'une infériorité en âge, déjà, donc en génération, elle est cadette par rapport à, la femme est cadette par rapport à un aîné. Bon. Ensuite, quand j'ai travaillé sur l'anthropologie de l'inceste, je me suis aperçue d'autres choses extrêmement vite en essayant de rechercher à travers des textes si on trouvait des traces de cet inceste du deuxième type dans l'Antiquité. Et le texte le plus ancien que j'ai trouvé est un texte hittite, qui doit dater du 8e siècle avant Jésus-Christ, et où, si j'ai bonne mémoire, et qui donne toute une série d'interdits de l'alliance. Or, j'avais même remarqué sur mon terrain, et puis tous les ethnologues le savent, que les interdits sont dits au masculin. Et là, effectivement, il y avait des interdits écrits, donc une sorte de code civil, si vous voulez, des hittites, qui disaient tout ce qu'un homme ne pouvait pas faire pour se marier. Il ne peut pas épouser sa mère, il ne peut pas épouser la femme de son père, il ne peut pas épouser la femme de son frère, il ne peut pas épouser sa sœur, sa fille, etc. Donc toute une série d'interdictions. Et il y en avait une extrêmement étrange, qui a servi d'ailleurs de titre au livre que j'ai consacré à ce problème. Il ne peut pas épouser en un même lieu les deux sœurs et leur mère. Et alors, le commentateur allemand, un historien allemand qui travaillait sur ces textes, disait que c'était une interdiction incompréhensible parce qu'il n'y avait pas de lien de consanguinité ni d'alliance indiqué dans ce rapport. Un homme ne peut pas épouser les 2 sœurs et leur mère. Si ce ne sont pas ses sœurs, ses cousines, ses filles ou sa mère, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas les épouser ?
Bon. Alors pourquoi ?
Alors c'est extrêmement simple. C'est qu'en fait, c'est une interdiction qui devrait être dite au féminin. Alors, un homme ne peut pas épouser, par exemple, la femme de son père, la femme de son frère, la femme de son fils. Eh bien, de la même manière, une femme ne peut pas épouser le mari de sa mère, le mari de sa sœur et le mari de sa fille. c'est les deux sœurs et leur mère. Bon, ça fait cette espèce de petit agrégat. Simplement, comme le droit ne permet pas de le dire au féminin, on le dit au masculin, un homme ne peut pas épouser les deux sœurs et leur mère. Bon, leur mère-fille, ça fait le rapport alterne d'une mère et sa fille ou d'une fille et la mère, et les deux sœurs, le rapport collatéral. Ça ne pouvait pas se dire au féminin. Et ça, c'est une sorte de révélation. Ça veut dire que les femmes, à cette époque, et ensuite ça continue d'ailleurs, les femmes ne peuvent pas être considérées comme des sujets de droit. Seuls les hommes sont des sujets de droit. Alors quand vous posez la question à des juristes, ils vous disent, comme une chose allant de soi, parce que je l'ai posé à des collègues, si vous voulez, comme une chose allant de soi, que c'est normal, parce que la position féminine est intégrée dans la position masculine comme réciproque ou comme symétrique. Je m'explique. Si je dis qu'un homme ne peut pas épouser la fille du frère de sa mère, sa cousine croisée matrilatérale dans notre langage, bon, bien, ça veut dire réciproquement, bon, que la fille à l'autre bout, elle ne peut pas épouser la fille, le fils de la sœur de son père. Bon. Donc c'est pas la peine de dire, puisque c'est déjà impliqué. Et dans la symétrie, c'est égaux changent de sexe. Si je dis que c'est pas la peine de dire qu'une fille ne peut pas épouser le frère de sa mère, parce qu'on aura dit qu'un homme ne peut pas épouser la fille de la sœur de son père. Vous voyez ? Donc, par la symétrie et la réciprocité, les femmes sont incluses dans le traitement des prohibitions de l'inceste dites au masculin. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qui ne figurent pas, qui ne peuvent pas être dites par la réciprocité, par la symétrie, et c'est ce cas-là particulier, les deux sœurs et leur mère, qui ne peut pas être dit au masculin, qui n'est pas le réciproque ni le symétrique d'un cas masculin, mais qui est dit quand même au masculin de cette façon. Et on retrouve ces mêmes interdictions dans le Lévitique, dans le Coran, y compris dans nos temps, puisque je vous ai dit que c'est tout récemment qu'en France, les interdictions portant sur les alliés collatéraux sont tombés. On peut épouser la veuve de un homme peut épouser la veuve de son frère, pour prendre ce cas, que depuis 1918, et il ne peut épouser la femme divorcée de son frère que depuis 1982, je crois. Et le droit canon l'interdit toujours. Le droit canon l'interdit toujours. Donc vous voyez, on est là dans quelque chose d'extrêmement profond qui, à la fois par les terminologies de parenté et par les règles d'alliance, signifie que les femmes sont des cadettes et ne sont pas des sujets de droit. Alors je me suis donc interrogée là-dessus.
Oui, parce que là, vous vous interrogez non seulement sur la différence des sexes, mais on est déjà dans l'inégalité. C'est-à-dire que quand elles considèrent que les femmes sont des cadettes, elles sont déjà des inférieures,
exactement.
Non?
Exactement. Et donc la valence différentielle des sexes, c'est en fait un rapport presque algébrique, qui est fondé sur aussi un invariant. Un de ces invariants, c'est de dire que ce qui vient avant est supérieur à ce qui vient après. Donc les parents sont, et c'est pris sur le modèle de la génération, les parents sont supérieurs aux enfants et les aînés sont supérieurs aux cadets. Donc on pourrait l'écrire par une équation, le rapport aîné-cadet est au rapport parent-enfant ce que le rapport antérieur-postérieur est au rapport supérieur-inférieur.
D'accord.
Et puis le rapport,
Par un glissement
tout à fait étonnant, le rapport masculin-féminin s'est glissé dans ce type de rapport, et on dit que le rapport masculin est traité comme un rapport aîné-cadet, donc comme un rapport parent-enfant, et donc ce qu'on voit dans les systèmes de parenté, et qui implique donc une supériorité sur une infériorité.
Mais alors pourquoi, Françoise Héritier ? D'où ça vient ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors là, on peut l'expliquer, mais on ne peut l'expliquer que de façon hypothétique. Donc c'est un scénario qu'il convient de bâtir, puisque dans ces domaines-là, nous n'avons pas de traces écrites. Cela ne peut se faire qu'en essayant de commenter certaines traces sur de fresques par exemple, mais ou les traces des fosses pour les morts, mais dans l'hypothèse dans le scénario que j'ai monté, c'est un scénario qui essaye de penser comment les hommes, les premiers hommes, je m'arrête disons à Néandertal et à Homo sapiens sapiens, parce que je crois qu'on peut pas dire grand chose sur les humanités antérieures, même si je peux penser fugitivement qu'elles avaient déjà compris un certain nombre de choses. Et alors, ce point, c'est que, mais il me semble que nous en avons déjà parlé très rapidement, c'est que ils observent dans la nature qui les entoure, et dans leur propre genre, le genre humain, une constante qui va au-delà de toutes les différences de formes d'espèces et des différences individuelles, qui est qu'il y a partout du masculin et du féminin. Et c'est là-dessus qu'est bâti ce système qui va nous servir à penser le monde par des oppositions binaires. Et là encore, nous ne sommes que dans l'égalité.
C'est ce que j'allais vous dire, on est dans la différence.
On est dans la différence et rien ne permet de dire que le chaud est supérieur au froid, ni même que le haut est supérieur au bas. Ce sont des échelles qui pourraient être graduées.
Bon. Et d'ailleurs, à partir de quand ça change alors ?
Et d'ailleurs, il y a une chose extrêmement... Mais on s'aperçoit d'abord qu'elles sont hiérarchisées dans l'esprit des gens, et qu'elles sont surtout affectées des signes masculins et féminins. Si je vous dis rêche et lisse, dur et mou, si je vous dis actif, passif, dans l'esprit de notre culture à nous, il est évident que rêche, dur et actif sont masculins, alors que doux, mou et passif sont féminins. Donc il y a cette façon de voir qui a été imputée souvent, donc la hiérarchie aurait été imputée à des constatations naturelles de la réalité, la peau des femmes serait plus douce, plus lisse, etc., et les femmes seraient passives, notamment dans le rapport sexuel. Mais la réalité est totalement différente. C'est que lorsque l'on se déplace d'une culture à une autre, on se rend compte que l'affectation des terminologies peut changer de sexe. Alors, chez nous, donc, actif, je prends l'exemple actif-passif. Chez nous, actif est masculin, parce que si on essaye de l'expliquer, il implique la domination sur les choses. L'homme est actif, il domine la matière, il domine la technique, il domine le pouvoir, il domine les gens, donc il est actif. Et c'est pour cela, c'est ce qui donne la gloire, la majesté de l'activité par rapport à la déréliction de la passivité. Mais si vous allez en Inde, en Chine même, vous allez trouver le contraire. Le passif est affecté du signe masculin. Et c'est l'actif qui est féminin, mais c'est le passif qui est valorisé. Parce qu'il signe la maîtrise sur soi-même, non pas sur les choses là-bas. Mais ce qui est important, c'est la maîtrise sur soi-même, et même sur l'éjaculation, la capacité d'avoir des rapports sexuels qui durent le plus longtemps possible, qui donnent du plaisir, mais en retenant l'éjaculation pour ne pas perdre ce fluide essentiel qu'est la semence, est un signe de grande puissance, et donc cette passivité masculine qui ne va pas jusqu'à l'éjaculation est prônée comme étant la marque la plus forte dans le genre humain.
Caroline Brouet rencontrait Françoise Héritier en 2006.
Ce n'est pas la définition même des termes qui est porteuse d'inégalité, c'est le fait qu'ils soient affectés d'emblée du signe masculin ou du signe féminin. D'où on repousse encore le problème. Pourquoi sont-ils affectés de cette façon aléatoire, selon les cultures, avec cependant quelques constantes, bien sûr, du signe masculin et du signe féminin ? Alors là, il faut faire appel à d'autres à d'autres butoirs de la pensée. Pourquoi y a-t-il cette infériorité? Alors, il y en a toute une série que l'on peut énumérer et qui jouent plus ou moins un rôle dans cela. Il y a le fait qu'il faut mourir, que nous ne sommes pas immortels. La naissance s'accompagne de la mort, c'est un butoir pour la pensée. Il y a le fait que la vie s'accompagne de la chaleur et de différentes autres choses, comme le mouvement, au moins pour les êtres vivants animés, et que la vie, elle est, on pense que cette chaleur est portée par le sang. Et donc, c'est une idée assez généralement admise que puisque les femmes perdent leur sang de façon naturelle, ce que les hommes ne le perdent pas, les femmes sont donc moins chaudes que les hommes. Donc déjà, vous avez un rapport chaud-froid qui fait que les hommes sont chauds et les femmes sont froides parce qu'elles perdent leur sang en dehors des périodes de grossesse et de lactation et naturellement avant la puberté, après la ménopause, où d'ailleurs leur statut change. Mais vous avez donc cette idée-là, que le sang est porteur de chaleur, porteur de vie, et qu'il y a plus de chaleur chez les hommes que chez les femmes. Bon, il y a l'idée qu'il faut des rapports sexuels pour faire un enfant. Et c'est une erreur, je pense, de postuler, comme l'ont fait certains anthropologues, que les sociétés primitives ignoraient cela. En fait, ils le savaient très bien. Il y a eu, notamment chez Malinowski, la nécessité de rendre compte de quelque chose, d'un phénomène que nous trouvons dans beaucoup de sociétés, y compris dans la nôtre, c'est celui des vierges mères. C'est-à-dire une fille, nous on en a un bel exemple, mais des vierges mères, c'est simplement des filles qui ne sont pas mariées et dont la règle sociale implique qu'elles n'ont pas pu, elles ne devaient pas avoir de rapport sexuel puisqu'elles n'étaient pas mariées. En fait, elles ont fauté, comme on dirait dans nos campagnes, et elles se retrouvent enceintes, mais comme il faut couvrir cela, on dit qu'elles sont des vierges mères, c'est-à-dire qu'elles ont procréé sans rapport sexuel. Mais en fait, ils savent très bien qu'il faut des rapports sexuels. Et il y a l'idée aussi que...
Donc ils savent qu'il faut un homme et une femme pour pouvoir engendrer un enfant.
Il faut qu'il y ait le rapport sexuel. Ils savent aussi que tous les rapports sexuels ne sont pas féconds. Bon. Mais... c'est des butoirs pour la pensée. Et puis il y en a un absolument énorme, celui-là, et qui ne surprendra personne, c'est qu'ils s'aperçoivent d'un phénomène que j'appelle exorbitant pour l'esprit, parce qu'il n'y a pas d'explication possible, que les mâles ne peuvent pas ni reproduire leurs semblables, ni faire du différent.
C'est-à-dire ni faire de fils, ni faire de filles.
Ils ne peuvent pas faire de leur fils, ils ne peuvent pas faire de filles, et que c'est les femmes qui font les deux. Et donc, comment se fait-il que les femmes ont le privilège de faire les deux sexes? Alors, il y a énormément de mythes qui essayent d'expliquer ce genre de choses, qui expliquent que les hommes ont été dépossédés, qu'au départ, l'humanité était faite de telle manière que les hommes faisaient leurs fils et les femmes faisaient leurs filles, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce que c'était un monde d'égalité.
Donc là, ce qu'on décrit, c'est quand même une infériorité de l'homme par rapport à la femme, qu'il a une impuissance en tout cas, impuissance qu'il a renversée en une surpuissance.
C'est pas une impuissance, c'est au contraire une surpuissance, parce que quand on
c'est devenu
une surpuissance, parce qu'en réfléchissant à cette question, ils sont arrivés, l'ensemble des humains, hein, c'est pas seulement les hommes qui ont décrété cela pour asservir les femmes, c'est une réflexion commune. Ils sont arrivés à la conclusion que si les femmes faisaient les enfants des deux sexes, elles ne pouvaient pas faire les garçons de leur propre chef, de leur propre puissance intime, au moins. Et peut-être même qu'elles ne pouvaient pas faire les filles non plus, à partir du moment où on dit qu'elles n'ont même pas la capacité de faire les garçons, parce qu'elles seraient dotées d'un moteur de puissance que les hommes n'auraient pas. On pense que si elles développent des garçons, c'est parce qu'elles sont mises là. Mmh. Alors, il y a deux grands types de théories que l'on va trouver dans les sociétés. L'une qui dit... qu'en fait, les enfants sont placés dans le corps des femmes sous forme de graines par le créateur ou par les ancêtres ou par des génies. et que ces graines descendent les unes à la suite des autres, mais qu'il faut, pour qu'ils viennent à maturité, alors le sexe est aléatoire là aussi, pour qu'ils viennent à maturité, il faut que le corps soit ouvert par un homme et que la graine soit arrosée par un homme. Alors vous trouvez cela encore maintenant chez les Zoulous par exemple, si je fais référence à un documentaire que j'avais vu où on disait que les ouvriers Zoulous expatriés qui allaient dans les villes à Johannesburg ou ailleurs travailler, ils revenaient régulièrement au village pour arroser les graines. Alors on disait c'est une belle métaphore de l'amour, pas du tout, c'est très 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 rationnellement, il doit revenir arroser, ensemencer pour que les graines poussent. Et l'autre façon de voir les choses, qui a été ennoblie par la pensée aristotélicienne, mais qu'on trouve dans des sociétés qui évidemment n'ont jamais lu ni connu la pensée aristotélicienne, c'est l'idée qu'en fait, la graine, elle est dans l'homme, et que c'est dans le sperme masculin, et que c'est lui qui met les graines dans le corps des femmes. Il met les graines dans le corps des femmes et ensuite ces graines se développent pour faire des enfants en utilisant la matière féminine, donc le sang qui ne part plus. Et le corps féminin est alors vu soit comme une besace, une marmite, un pot dans lequel va cuire le bébé, soit comme une matière, ça c'est la vision aristotélicienne, une matière qui aurait tendance à proliférer de façon anarchique si elle n'était pas dominée par le pneuma, le souffle qui est contenu dans le sperme masculin. Et donc d'une certaine façon, les hommes deviennent le moteur premier de la procréation. Mais puisqu'il faut, alors ça donne la supériorité que l'on va trouver ensuite supérieure, considérée comme antérieure, comme père, comme aîné par rapport au féminin.
Et ça a conduit à ce qu'on a appelé la domination masculine.
Et ça a conduit à ce qu'on a appelé
partout, hein,
la domination masculine. Alors elle prend des formes variées. Bien évidemment, elle peut prendre des formes extrêmes dans des sociétés patrilinéaires, patrilocales, extrêmement fortes, et avoir des formes beaucoup plus douces dans d'autres sociétés. Mais en règle générale, il n'y a pas de société où ce soit les femmes qui aient le pouvoir et qui échangent entre les hommes.
Vous voulez dire que le matriarcat est un mythe, Françoise Héritier ?
Ben oui. Je pense que les
matriarcales. Il existe des sociétés matrilinéaires,
mais pas des sociétés matriarcales.
Alors, puisque vous disiez, Françoise Héritier, que cette différence des sexes passe par le corps, oui. Est-ce que ce n'est pas en maîtrisant leur corps que les femmes peuvent reprendre le dessus d'une certaine façon?
Là, c'est très exactement.
Puisque les hommes se sont réappropriés.
C'est très exactement ce que je pense. Je disais tout à l'heure qu'on avait connu l'existence des ovules et des spermatozoïdes qu'à la fin du XVIIIe siècle, et qu'il a fallu encore 2 siècles avant qu'au début du XXe, on comprenne ce qui se passe au moment de la rencontre entre les gamètes, et qu'il y a cette scission chromosomique qui fait que l'enfant hérite de la moitié du patrimoine de son père et de la moitié du patrimoine de sa mère. Mais pour admettre cela, il a même fallu quand même une longue querelle entre savants, les uns disant que l'enfant était tout entier dans l'ovule, les autres disant que l'enfant était tout entier dans le spermatozoïde. Ça veut dire que c'était difficile d'échapper à des schémas simplificateurs comme ceux qui ont existé auparavant et qui continuent d'exister parce qu'ils ont la vie dure, indépendamment des connaissances scientifiques que nous avons. Donc, on sait maintenant que les 2 sexes concourent exactement de la même manière à la procréation. Ça veut dire que les femmes ont la même, produisent également donc leur concours, donnent leur concours à la procréation et ne peuvent pas être tenues pour inférieures de ce point de vue. Mais elles ont été pendant si longtemps assignées à la procréation. Pour quelle raison ? Eh bien parce que les hommes qui tenaient à avoir des semblables, des fils, une fois qu'ils avaient engrossé une femme, ben l'important c'était quand même pour eux de garder le produit, surtout si c'était un fils. Mais il se trouve que la grossesse dure longtemps, et puis ensuite qu'il faut longtemps avant que les enfants soient sortis d'affaires avec l'allaitement et puis l'apprentissage de la marche et puis de l'apprentissage de la vie. Et donc les enfants restent auprès de leur mère assez longtemps, et il y a eu cette, de façon globale, cette assignation des femmes uniquement aux tâches reproductives. Quand je dis uniquement, façon de parler, parce qu'on savait les utiliser comme productrices. Mais elles ont été affectées à ces tâches-là. Ce qui a changé pour nous, et qui est le moteur du changement pour l'avenir, c'est qu'au XXe siècle, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu un certain nombre d'États qui ont accordé le droit, c'est-à-dire le droit légal à la contraception aux femmes.
Donc en France en 1967.
Ensuite le droit à l'avortement. Mais il a fallu, ça ne veut pas dire que dans les sociétés primitives, les femmes n'essaient pas, elles essayent par des moyens, avec des pessaires, avec des... Oui, c'est généralement des pessaires, c'est-à-dire c'est des objets fabriqués avec de l'argile ou des toiles diverses. Elles essayent d'arrêter le passage des spermatozoïdes, mais c'est évident que ça ne marche pas très très bien. Mais le fait que les femmes pratiquaient la contraception et pratiquaient l'avortement n'a rien à voir avec le fait légal de pouvoir le faire. Et donc, le droit à la contraception me paraît, à moi, l'élément essentiel pour l'avenir. Et ça ne se passera pas en 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Il faudra énormément de temps pour que ça soit généralisé. Mais c'est l'élément essentiel parce qu'il porte très exactement sur la raison ou sur le lieu pour lequel les femmes ont été mises en surveillance, en résidence, et affectées à une certaine tâche, notamment au domestique, à savoir le fait qu'on les tenait pour des reproductrices et non pas pour des procréatrices.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Françoise Héritier, enregistrée en 2006. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.